Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sarah Hélermeyer, Frédéric Bonnet pour parler ensemble de Félix Fénéon, les temps nouveaux de Seurat Matisse, c'est au musée de l'Orangerie, futur ancien fugitif, une scène française, c'est au Palais de Tokyo. Il y aura un coup de cœur de Frédéric Bonnet pour l'exposition de James Webb à la galerie Iman Fares et le journal de la dispute ouvert ce soir par Jean-Christophe Brianchon à la page Prix Marcel Duchamp. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition donc consacrée à Félix Fénéon au musée de l'Orangerie. Félix Fénéon, critique d'art, directeur de galerie, collectionneur. Il a été le témoin, mais aussi l'acteur d'un moment très important de l'histoire de l'art, celui du basculement vers la modernité. On a pu voir sa collection des arts lointains, comme il les appelait, au musée du Quai Branly. L'exposition s'est achevée il y a peu, et maintenant c'est à l'Orangerie qu'on a le deuxième épisode de ce diptyque, on va dire, Fénéon engagé du côté des avant-gardes qui vous attend à l'Orangerie. Donc c'est une redécouverte peut-être qui réunit ici les musées d'Orsay, l'Orangerie, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, le Museum of Modern Art, le MoMA de New York. Isabelle Kahn et Philippe Pelletier en sont les commissaires. Joris Lipsch, le scénographe. C'est un peu les voyageurs du temps. Hein. Donc Félix Fénéon, on va se projeter pas mal de temps dans le passé quand même, un bon siècle pour parler de cette exposition Fénéon temps nouveau. Premier tour de table, première impression rapide, Corinne Rondeau.
Une exposition minimale et élégante comme FF.
Comme
FF,
Félix Fénéon.
Son petit nom.
Sarah Hélermeyer.
Une exposition petite mais très bien construite et qui permet, en tout cas moi, qui m'a permis de changer mon regard sur le néo-impressionnisme via la figure de Fénéon.
Ce qui n'est pas rien, parce que Dieu sait que vous aviez des a priori quand même. L'impressionnisme, on en a souvent parlé. Frédéric Bonnet.
Un personnage singulier et une exposition qui attise la curiosité.
Bon, tout ça m'a l'air plutôt bien parti hein, pour cette exposition du musée de l'Orangerie que Corinne Rondeau nous décrit dans ses grandes lignes, les grandes lignes du parcours.
Écoutez, on arrive sur un portrait, ce qui est déjà pas mal, de cet homme qui était un dandy, qui était sec, qui était grand, qui était taillé à la serpe, mystérieux et secret. Donc on arrive avec effectivement ce qui fait la jointure avec le Quai Branly, à savoir quand même des masques, notamment du Congo, de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et puis trois petites études de nu, dos, profil face de ce rat, qui est quand même l'artiste qui se sont révélés à eux-mêmes, je dirais.
L'un à l'autre.
On va découvrir plus tard dans l'exposition. Donc on a ce portrait et puis ce qui marque le plus, je dirais, le point d'articulation du siècle entre 1890 et puis 1906 où il devrait commencer à collectionner l'art africain. Donc cette entrée-là est un bonjour et puis très rapidement en fait on va découvrir que on va découvrir un Fénéon qui a à la fois ce qu'il a eu sous les yeux et ce qu'il a eu sous la plume, c'est-à-dire un accompagnateur, un critique d'abord littéraire, puis d'art, surtout d'art. Il arrête très tôt, en fait, la critique d'art. Et puis, ce qu'il aura eu entre les mains, à savoir, puisqu'il a été collectionneur et à la fois marchand dans la dernière partie de sa vie professionnelle, puisqu'il arrête en 1924, alors qu'il meurt en 1944. Donc, il a une longue partie de sa vie où il n'est plus dans la sphère, je dirais, artistique, littéraire, même s'il y est toujours dedans, puisque Paulhan aura écrit, il aura rencontré Paulhan plus tard et il aura écrit un texte sur Fainéant. Donc en fait, on a un parcours qui est parfaitement segmenté, qui nous dit à la fois les deux événements qui sont les plus importants, je dirais, à la fois son arrestation lors du procès des 30 et l'attentat à la bombe au Sénat. Donc on a une reconstitution des explosifs, on a l'album des anarchistes où il y a Fainéant à l'intérieur avec les portraits Bertillon. Et puis on a la grande salle du néo-impressionnisme qui est absolument formidable, Signac, Maximilien Luce qui est d'ailleurs le portrait qui nous accueille, dont Fainéant disait « c'est un nouveau venu, un brutal, un loyal, au talent frustre et musculeux ». Donc c'est à peu près ça aussi Fainéant. Et donc dans cette grande salle, ensuite, on a la partie, tout ce qui va faire entrer Fainéant dans le champ de l'art. Il y a évidemment... avant ça, il y avait la littérature, mais bon, c'est pas trop traité dans l'exposition. Mais de l'autre côté, il y aura des Bonnard, il y aura Matisse, enfin tout ce qu'on connaît bien. Et puis il va finir sur le soutien des futuristes en 1912 à Paris.
Alors Sarah, vous avez changé d'avis sur le néo-impressionnisme grâce à cette exposition. Grâce à Fainéant?
Alors, via la figure de Fainéant, puisque, bon, Fainéant, je dois l'avouer, je connaissais de nom, mais je connaissais très mal.
D'où l'intérêt de cette double exposition. En effet.
Exactement. Et on pourrait avoir l'impression, en tout cas moi, mon sentiment, c'était que le néo-impressionnisme était dans une pure continuité avec l'impressionnisme, mais pas seulement sur le plan, évidemment, sur le plan des techniques, il y a des différences, mais sur le plan politique, elles sont également majeures. Puisque ce qui articule toute l'exposition, finalement, c'est la relation entre art et politique, en sachant que Félix Fainéant et les néo-impressionnistes qui l'a accompagné, comme Pissarro, Seurat et Signac, étaient tous en fait des anarchistes. Et le fait de savoir ça, eh bien, change le regard qu'on peut justement avoir sur le néo-impressionnisme. Par exemple, sous ce prisme-là politique, on peut même voir différemment l'application de la loi des contrastes simultanés, qui est une loi donc selon laquelle il existe des harmonies entre des couleurs opposées et contrastées ou complémentaires. Et finalement, cette loi-là, on peut d'une certaine manière considérer qu'elle rejoint l'idéologie anarchiste, pour laquelle il s'agit également d'établir une coexistence harmonieuse entre des individus qui seraient autonomes et bien distincts les uns des autres. Et puis dans le même ordre d'idées, on peut aussi considérer finalement que l'application de principes scientifiques à la peinture, c'est-à-dire la division des tons en petites couches de couleurs, eh bien, rejoint également, en tout cas c'est ce qu'on apprend dans l'exposition et par exemple aussi à travers le catalogue, des utopies de l'époque selon lesquelles eh bien, les progrès technologiques et des sciences amèneraient possiblement la construction d'une société idéale et harmonieuse. Et c'est ce qu'on voit notamment dans un tableau dans la deuxième salle de Paul Signac qui s'appelle « Autant d'harmonie », mais qui s'appelait au départ Autant d'anarchie. Et donc ce qu'on voit justement, et ça correspond plus finalement à l'esprit anarchiste, c'est une scène bucolique avec des hommes, des femmes et des enfants qui se prélassent, qui ramassent des fruits, qui lisent, qui peignent, de manière harmonieuse tous ensemble. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas de changer justement mon regard, comme je disais, sur la peinture néo-impressionniste.
Frédéric Bonnet, pour entendre un premier point de vue aussi plus développé de votre part sur cette expo Fainéant au musée de l'Orangerie.
Oui, moi je l'ai trouvé assez passionnante cette exposition, parce que c'est pas évident de faire une exposition sur un personnage qui est avant tout un écrivain. Alors on tombe très vite dans les expositions documentaires qui peuvent être assez vite rasantes ou dans des expositions qui sont trop illustratives parce que justement on veut sortir du côté rasant. Et j'ai trouvé que là les commissaires ont très très bien joué un équilibre entre la documentation et la qualité des œuvres. Tout ça, il y a une bonne balance entre les deux, et je trouve que le rythme qui est donné à l'ensemble fait que la visite est très très agréable. Il y a vraiment une fluidité qui se fait entre tout ça. Et moi, il y a deux points essentiels que je j'ai retenu de l'exposition, c'est que effectivement la première salle dans laquelle on rentre, passé l'introduction où il y a ces trois merveilleuses petits nus de ce rack que vous évoquiez, Corinne, la première salle plante le décor du fainéant anarchiste avec la par contre, beaucoup de documents, d'ailleurs très intéressants, les actes de mise en accusation, le registre des anarchistes, des dessins réalisés en prison, etc. Mais on passe très vite à ce qui, pour moi, est le cœur du sujet et que vous évoquiez, Sarah, c'est comment est-ce qu'on fait un lien entre cet anarchisme et l'art qui défend. Et je trouve que le passage de l'un à l'autre est très très réussi parce que on se rend très vite compte que ce qu'il y a de commun entre ces deux salles, c'est des idées d'harmonie, ça vous le disiez très bien, mais c'est surtout une volonté de lutter contre les normes, de lutter contre les traditions établies, de lutter contre les institutions publiques et surtout de faire taire les conventions de l'art. J'ai trouvé dans le catalogue cette phrase fainéant avec la plume très acérée. J'ai trouvé dans le catalogue cette phrase qu'il avait réservé à Bouguereau en commentant une sculpture de William Bouguereau, dont il dit « Mais pour qui donc les guillotines sont-elles faites ?» c'est quand même assez savoureux. Et il y a un deuxième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est pour qui n'aurait pas vu l'exposition au musée du Quai Branly, de rappeler l'importance de l'ouverture d'esprit aux arts premiers de Fainéant, surtout vers la fin de l'exposition. Il y a une très belle vitrine avec des objets qui, pour certains, sont vraiment des objets majeurs. Et ce qui est très intéressant, ça moi je ne les connaissais pas, c'est que certains de ces objets de Fainéant, pour montrer quand même à la fois l'importance du personnage dans le scope de l'art en France de l'époque et de la critique d'art en France de l'époque, c'est que certaines des pièces d'art africain de la collection de Fainéant ont été exposées au MoMA à New York en 1935. Et Walker Evans a photographié ces pièces-là pour, j'imagine, le catalogue. Et il y a des tirages de trois œuvres, ou quatre, je ne sais plus, qui sont accrochés là. Les œuvres sont dans la vitrine juste à côté. Et c'est vraiment un rapprochement qui est magnifique. En plus, les tirages sont d'époque, ils sont absolument sublimes à regarder. Voilà, une belle... Belle exposition.
Belle double exposition, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment rappeler qu'il y a eu ce premier temps au musée du Quai Branly, Jacques Cher. Moi, je trouve ça, comme vous, Sarah Hélère-Mayer, c'est un nom que je connaissais, Félix Fainéant, mais j'en savais pas beaucoup plus. Et je trouve que c'est quand même assez, assez passionnant et puis même assez émouvant, quoi, enfin, pour moi, de découvrir une figure pareille, de quelqu'un qui est vraiment ouvert et intéressé par les autres, tous les autres, à une époque où, bon, quand même, on est dans le colonialisme pur et dur. Lui, il va regarder ce qui se passe en Afrique, en Océanie, dans ces arts dits lointains pour lui, et puis l'action politique qui passe aussi par le champ de l'art. Mais la Revue Blanche, c'est vrai qu'il n'est pas tellement traité dans l'exposition, mais qui est quand même une grande histoire pour Félix Fainéant. Mais il y a ce soutien aux artistes, ce regard. Enfin, moi, ça, j'avoue que je trouve ça plutôt émouvant, et c'est une bonne et belle idée que les institutions lui rendent ainsi hommage. Vous avez évoqué le MoMA, il faut dire que cette exposition, elle va être à New York, présentée de mars à juillet. Je redonnerai les dates à la fin de cette séquence. Corinne Rondeau.
Oui, alors, je suis pas sûre que tout le monde voit ce qu'on vient de dire à l'antenne, parce que la dimension politique, c'est vrai qu'elle peut être un peu juste faite par la dimension pour un non-spécialiste, je parle là. Parce que Fainéant, c'est pas effectivement où on connaît bien le néo-impressionnisme, et c'est un nom qu'on connaît quand même, parce qu'il est très présent dans cette période-là. Mais sinon, je suis pas sûre qu'on ait une lecture politique immédiate, comme ça, bing, bang, boum. Par contre, ce qui est évidemment très intéressant, c'est que, comme le néo-impressionnisme, évidemment, a toujours été doublé par ce qui a été un scandale, l'impressionnisme, mais qui est devenu une convention, d'une certaine manière, le néo-impressionnisme reste quelque chose qui n'est pas encore visible. Et Fénéon, je veux dire, avec ses basques, il vient jusqu'à nous et il dit, hein, le néo-impressionnisme exige une exceptionnelle délicatesse d'œil. Et en fait, on voit très bien ça dans les choix, parce que on voit, il y a des estampilles sur les murs qui démontrent ce qu'il a acheté. Il va acheter à la fois des noirs de Seurat, Le Dormeur par exemple, ou Courbevoie, L'Usine dans la nuit, mais aussi donc des paysages. Ce néo-impressionnisme, c'est quand même ce qui fait enfin, il est passionné par la dimension du mélange optique, c'est-à-dire que la lumière se fait dans la rétine, dans le système physiologique, qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure,
Sarah,
qui renvoie effectivement à cette manière de sortir du champ de ce qu'il appelait la palette, la sauce de la palette. C'est-à-dire, on fait pas la couleur, mais ça veut dire aussi qu'il y a un rapport d'intériorité et d'extériorité du regard sur l'art qui change le rapport du spectateur et l'implication. C'est-à-dire que quand on dit on a besoin d'une exceptionnelle finesse de l'œil, ça veut dire qu'on s'en fout de la main. Donc il était même avant Duchamp en disant entre la photo et ce qui va devenir de l'art moderne. Il n'est pas dans les utopies, il n'est pas dans l'avant-garde. Il est vraiment dans comment on peut regarder quelque chose qui n'est pas là encore, et la manière dont le néo-impressionnisme va complètement exploser le champ même de la représentation et du plan. Et d'ailleurs, il dira les autres effarés fuiront, les habiles qui dissimulent par de gentillesse digitale leur incapacité visuelle. Ces jongleurs d'atelier devront tourner leurs efforts vers le bon et le bilboquet. Donc effectivement, mais ça c'est des phrases qui effectivement se posent la question de qu'est-ce que c'est que d'avoir un œil par avoir. Il dit, peu importe la main gourde, il faut que l'œil soit agile, perspicace et savant. Et en fait, cette exposition, elle nous met à cet endroit-là. Il y a la perspicacité, la finesse, la rigueur, parce qu'il y a de la patience, il y a de la minutie dans ces choix-là. Et je trouve que ce rapport-là est aussi une manière de regarder la manière dont on regarde ce qui ne nous est pas donné à l'intérieur des stratégies de pouvoir, d'élaboration de conventions. Voilà, c'est la grande famille des anarchistes, mais au sens d'un retour à la nature. Parce que, comme vous l'avez dit avec le Signac, c'est par la nature que doit se faire le nouvel Éden.
Sarah Lermeyer.
Oui, sur le fait qu'effectivement les rapports entre art et politique sont peut-être pas flagrants dans l'exposition, moi je trouve que néanmoins il traverse vraiment justement toute l'articulation de cette exposition qui est en fait un découpage de sa vie, et sa vie est toujours liée à des enjeux politiques, hein, qu'il s'agisse de la Revue Blanche ou même la dernière salle avec les futuristes italiens.
C'est pas sur les murs, mais enfin, moi je pense simplement aux spectateurs un peu.
Mais alors justement, si on parle de ce qu'il y a sur les murs et de ce qu'on peut voir, en revanche, comme on en a parlé des sculptures africaines et océaniennes, ce qu'on voit dans cette exposition, donc, c'est que c'était un collectionneur également d'art africain. Et c'était ce qui est assez intéressant et remarquable, c'est que à l'époque, quand ils collectionnent, c'est assez courant de comparer en fait l'art africain avec, par exemple, le cubisme. Par contre, il est le premier à établir des associations entre art africain et néo-impressionnisme. Alors pourquoi? Parce qu'il voit finalement dans l'un comme l'autre une même logique se déployer, qui serait finalement la transposition du vivant dans des systèmes de formes épurées et géométriques. Et c'est ce qui lui fait dire d'ailleurs à Fénéon donc que le néo-impressionnisme, contrairement à l'impressionnisme, ne s'en tient pas à la retranscription d'instant figace, mais chercherait à traduire plutôt ce qui est l'ordre du fugitif dans des moments qui qualifient d'éternel. Mais alors, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait changer. Enfin, je trouve que ça amène justement un autre regard, et c'est ce qui fait que, par exemple, que quand on voit effectivement une baignade à Asnières ou un dimanche sur l'île de la Grande Jatte, effectivement, je trouve qu'on ressent ça, parce que ce qu'on voit, ce sont finalement des figures au bord de l'eau, et dont les formes, eh bien, sont traduites par des lignes hiératiques, par des volumes compacts, comme si effectivement sera en quelque sorte solidifié l'impressionnisme, ou comme le disait également à nouveau Fénéon, dépeignait, je cite, la nature dans son caractère d'éternité. Et ça, pour le coup, je trouve que ça se voit dans l'exposition, et que c'est vraiment, en tout cas pour moi, quelque chose qui amène un autre regard.
Frédéric Bonnet, pour conclure cette séquence sur Fénéon.
Oui, pour revenir sur le sur la question de du caractère central de l'optique, du divisionnisme et de la théorie de la couleur, ce qui est assez frappant dans l'exposition, c'est aussi la profondeur de champ de son regard, puisque elle se conclut précisément sur le futurisme. Ce qu'on sait pas forcément, quand on pense au futurisme, c'est Fénéon qui a organisé la première exposition futuriste en France en 1912 à la galerie Bernheim Jeune, dont il était à l'époque le directeur artistique. Il y a notamment cette dernière salle qui traite du futurisme, un tableau absolument prodigieux de Rousselot qui s'intitule L'Emparc, qui est un écho un peu lointain, mais de certaines autres... Je vais pas aller dire expérience, mais en tout cas approche et étude de la lumière et de la couleur qu'on peut voir dans des salles précédentes, notamment un magnifique tableau de Krauss qui s'intitule Les Îles d'Or, qui est un paysage maritime sublime, carré, petit format, des bandes horizontales avec des nuances de couleurs, et il y a un arc véritablement qui se dessine de l'un à l'autre, et je trouve ça très très bien fait et très inspirant.
J'espère qu'on aura inspiré à nos auditrices et auditeurs l'envie d'aller découvrir cette exposition Félix Fénéon, Les Temps Nouveaux de Seurat à Matisse. C'est jusqu'au 27 janvier 2020 au musée de l'Orangerie. Elle sera présentée ensuite au MoMA à New York du 22 mars au 25 juillet. Le catalogue lui est coédité par le Musée de l'Orangerie et la RMN Grand Palais. À suivre dans cette dispute, on va faire un tour au Palais de Tokyo, à la galerie Iman Fares. On parlera du prix Marcel Duchamp.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec la nouvelle exposition pléthorique du Palais de Tokyo, sous l'intitulé « Futur, ancien, fugitif, une scène française », elle réunit des artistes nés en France ou à l'étranger, vivant en France ou à l'étranger, liés provisoirement ou durablement à ce pays. C'est comme ça que c'est présenté, 44 artistes ou collectifs d'artistes nés entre les années 30 et les années 90, qui voient leurs œuvres présentées. On comprend donc que le spectre est ouvert très très large. On cherchera ensemble ce qui nous est présenté et proposé par les commissaires, nombreux aussi, Franck Balland, Daria de Beauvais, Adélaïde Blanc, Claire Moulin, assistée de Marie-Lou Thiébault. C'est l'antenne, c'est le direct, on est revenu et on était en train de parler, surtout moi. Une scène française au Palais de Tokyo, les premiers sentiments sur cette exposition, Sarah Hellermeyer.
C'est une exposition qui laisse plutôt perplexe, qui arrive à échapper à certains écueils, je dirais, mais qui est quand même globalement assez difficilement lisible.
Frédéric Bonnet.
Une exposition très inégale, mais qui témoigne également de la difficulté d'écrire le contemporain.
Corinne Rondeau.
Je suis très embêtée pour cette exposition.
C'est-à-dire ?
Bah écoutez, parce que cette exposition, enfin, ce parcours m'a l'air très très bien fait en ce sens qu'il est cloisonné puisqu'il a des parties, mais ces parties ne font pas. Ne font pas récit. Et donc, ça revient à ce que dit Frédéric sur comment raconte le contemporain. Par ailleurs, il y a des choix dont je me pose encore la question, la nécessité. Je pensais à Capro qui disait, vous savez, les artistes ne peuvent pas devenir coiffeurs ou fermiers parce que ils ont une obsession quant au fait de se poser la curiosité permanente de ce que pourrait être l'art. Et là, on se dit, ils y ont un peu répondu. Et donc, en fait, ils pourraient devenir coiffeurs ou fermiers.
Bon, je vous ai prévenu, hein, pour vous rassurer, je ne demanderai à aucune d'entre vous de décrire le parcours de cette exposition, mais plutôt, alors, ce qui a retenu votre attention, alors, peut-être de façon positive, peut-être pour donner des conseils de visite à nos auditrices et auditeurs, parce qu'il faut dire que, oui, la perplexité, je la partage, de Corinne Rondeau, c'est quand même un peu compliqué de faire son chemin. Sarah Lermeyer va commencer à nous dire ce qu'elle retient.
Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir deux minutes sur, il me semble que ça serait peut-être sur le projet de cette exposition qui est peut-être de base et problématique.
Quel est le projet?
Eh bien justement, donc
ce que j'ai énoncé.
Parler de scène nationale à l'heure de commencer de la mondialisation, des réseaux sociaux, les artistes sont sur Internet, hein, comme tout le monde. C'est un peu compliqué, voilà, de parler d'une scène qui aurait des spécificités. Et puis par ailleurs, on sait aussi ou pas, mais qu'il n'y a pas un monde de l'art, il y a des mondes de l'art. Il n'y a pas une scène de l'art, il y en a des centaines et des milliers, quoi. Mais de ce point de vue-là, le Palais de Tokyo répond plutôt intelligemment, puisque justement, il s'agit pas, comme le sous-titre l'indique, c'est une scène française, hein, de proposer un panorama qui serait exhaustif ou représentatif de la scène française, mais plutôt de proposer des constellations d'artistes, comme vous l'avez dit Arnaud, qui vivent ou pas en France, qui sont ou pas de nationalité française, et qui en fait se connaissent plus ou moins les uns les autres, sont liés par des réseaux d'affinités artistiques, intellectuelles. Aussi par des circuits de production, de diffusion plus ou moins alternatifs, par exemple des revues, et également parfois par des liens en fait de transmission, puisque certains ont été les professeurs et les élèves des uns des autres. Mais le problème, c'est justement c'est là Corinne, où j'en viens, c'est-à-dire que le problème justement, c'est que ces réseaux, ces familles d'artistes ne sont pas du tout mis en avant en tant que tels, ce qui aurait peut-être permis justement d'articuler l'exposition en ayant un principe scénographique assez fort et lisible, en créant justement peut-être des constellations autour de certaines
figures. Attendez,
non, parce que là, il y en a une quarantaine, on peut prendre 40 autres et faire le même postulat de départ.
On est absolument d'accord, et c'est ce qui fait que malgré cela, et malgré ce qu'on peut lire dans le dossier de presse où on nous dit qu'il y a un parcours, contrairement à vous, Corinne, je trouve qu'on ne le sent pas, ce parcours sectionné, qui nous dirait qu'on passe plus ou moins d'un thème à un autre, en fait, on a plutôt l'impression, malheureusement, la plupart du temps, que les œuvres se succèdent les unes aux autres, un peu comme dans un salon, comme dans une foire, sans véritables articulations.
Néanmoins, c'est un peu white cube chaque fois, l'impression, mais c'est ça que je voulais dire.
En fait, à la fois, ils ne veulent pas insérer les artistes dans des thèmes, donc les thèmes ne sont pas affichés, il n'y a pas non plus les familles qui
ah, mais on a un livret.
Donc en fait,
on a un livret avec des thèmes.
Oui, mais en fait, qui ne sont absolument pas apparents dans l'exposition, c'est vrai.
Bah
mais
si, on le récupère, je l'ai récupéré comme un...
Oui, mais est-ce que franchement, Corinne, vous sentez...
Est-ce que le livret opère
Bien sûr que non.
Ben voilà, c'est la situation. Donc... Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des mises en relation et des correspondances qui sont intéressantes, et des artistes qui le sont aussi. Mais le problème, en vérité, plutôt curatorial.
Bon, on y viendra. Frédéric Bonnet, peut-être une réflexion plus large sur la...
Oui, moi, je trouve que l'exposition est pas si mal accrochée que ça, parce que on aurait pu craindre un effet un peu plus foutoir entre guillemets au Palais de Tokyo, et je trouve que il y a eu un effort de fait dans l'accrochage et dans les circulations. Ce qu'on peut aussi mettre au crédit des commissaires de l'exposition, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Ils sont clairs. On aime ou on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des choix qui ont été faits. Moi, je ne vois aucune thématique, je ne vois aucune progression, en effet, dans le parcours. Je trouve que parfois, il y a des rapprochements d'artistes qui fonctionnent plutôt bien. Mais voilà, après, je suis allé piocher ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que... c'est la difficulté, en même temps, inhérente et intrinsèque à ce type d'exercice. Aller voir n'importe quelle biennale du Whitney tous les deux ans à New York, qui nous montre que des artistes américains, donc on est sur la même problématique. On a beau vous mettre un titre, vous trouvez de la
avec
même manière plongé dans un amas de choses diverses et variées dans lequel vous venez faire votre marché et vous ressortez de là avec j'ai aimé ci, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé l'autre. Mais quoi qu'on en dise, il n'y a jamais une thématique qui en ressort. sort. Il n'y a jamais, alors la presse s'écharpe à chaque fois, qu'est-ce que ça raconte? Finalement, ça raconte pas grand-chose. C'est vous en garder ce qui vous a intéressé, vous a accroché ou vous a touché, point barre. Et je crois pas qu'on puisse et qu'on doive demander à ce genre d'exposition d'avoir des thématiques claires, tranchées, là. C'était des propos, des choix qui sont subjectifs et qui doivent être assumés comme tels. Et voilà.
Bah, après, faire une foire, on en fait chacun. C'est pas...
Non, c'est pas une foire, parce que c'est quand même des décisions de choisir des œuvres, d'accrocher, de faire des rapprochements, encore une fois, entre certains artistes. Donc non, on peut
mais
pas...
Mais ça rejoint un peu le problème qu'on a évoqué pour la Biennale de Lyon, moi, laquelle je n'ai pas visité, mais les critiques présents, vous en étiez, Sarah Ellermeyer disait ça. C'est d'ailleurs le Palais de Tokyo qui était le commissaire de cette Biennale, avec là encore plus de commissaires que pour cette exposition, et que finalement, comment se fait le choix quand on est aussi nombreux à être commissaire d'une exposition? Est-ce que c'est le consensus? Est-ce que dès qu'il y en a un qui veut, c'est ce que je crois que ce qui s'est passé à Lyon, il y en a un qui veut un artiste maillier, quoi qu'en pensent les autres, et du coup cette impression, elle est celle que vous décrivez aujourd'hui.
Oui,
Sarah Ellermeyer.
Mais pourquoi pas,
autant l'assumer.
Oui, mais c'est assumé. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, ce qu'on voit dans les textes de présentation, c'est qu'il y a un renoncement à toute tentative d'objectivité. Effectivement, ça serait un écueil, ça serait impossible.
Oui, bien sûr.
Mais donc, il y a une affirmation de la subjectivité des commissaires qui parlent de cartographie sensible, affective. Si ce n'est que pour moi, ça, en fait,
ces mots-là, il faudrait les rayer.
Non, mais c'est peut-être un problème, justement, parce que c'est pas un travail.
Ils arrêtent, quoi, d'avoir des intentions. Non, mais c'est les intentions qui me gênent.
Mmh. Oui,
mais... Parce que quand même, quand on a la revue, là, le Palais de Tokyo,
Palais.
Voilà, et ça coûte combien?
Dans votre micro, ça sera mieux.
15, je sais pas. C'est quand même incroyable, je veux dire. Il vous dit c'est une scène française, et puis vous dites c'est une certaine, puis c'est une autre, alors ça sent la patate chaude. Puis après, c'est la transmission. La transmission, alors c'est quoi? C'est une exposition sur les filiations, les origines, le retour du je suis le fils de qui, entre guillemets. Je veux dire, ça va pas du tout. Deux colonnes au départ, vous n'avez que des citations à Agamben, Baudelaire, machin. On n'en peut plus. Leur intention me fatigue. Et profondément. Je veux dire, à la limite, on me ferait juste regarder et on
vous propose ces artistes-là.
Et ça va. Parce que là, c'est pas possible.
C'est l'enrobage.
Mais alors, après, vous avez remarqué que chaque artiste a son cartel. Ça commence avec une citation de l'artiste. Toutes les citations, quasiment, contiennent quelque chose du passé, de la carcasse préhistorique, de l'invisible, jusqu'au vers de Aude Parisé qui va bouffer les trucs dont il y a quelque chose qui vient manger, les mots de mystère. On ramasse du déchet, le temps qui passe, on est vraiment dans une sorte, là, vraiment d'organisation, d'un rétro quelque chose qui est cet ancien, ce futur, ce fugitif, on ne sait pas trop quoi. Donc, et moi, je trouve que ça, c'est dévitalisé. Cette exposition est dévitalisée et j'ai trouvé, par contre, de la vitalité dans le sous-sol. Et ça, je suis contente au moins d'avoir trouvé trois artistes qui m'ont excité. Voilà.
Bon, trois artistes à peu près de ça dont on aura le temps de parler dans le temps qui reste pour cette séquence consacrée à cette exposition au Palais de Tokyo. Alors, allons-y sur le positif. Sarah Ellermeyer, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui a retenu votre œil aiguisé par Fénéon?
Disons que ce qui est le plus intéressant dans cette exposition, c'est les correspondances qui sont proposées entre des artistes de différentes générations. Il y a une partie, je trouve, qui fonctionne plutôt bien, qui est un espace où on voit par exemple des œuvres de Vidia Gastaldon, qui est une artiste, alors on peut donner l'âge, hein, il est affiché sur le dossier de presse, qui a 45 ans et qui donc recouvre toutes sortes d'objets, des tasses, des tabourets, des échelles, de signes ésotériques. Non loin de ça, on voit une installation de Anne Bourse, qui est une artiste, celle de 37 ans, qui recouvre également toutes sortes d'objets, notamment des matelas de lettres, de signes. Elle a créé une sorte de chambre avec de la moquette beige. Et puis derrière les œuvres de Vidia Gastaldon, il y a un papier peint de Marc-Camille Chemovitz, qui est un artiste, lui, qui a par contre 72 ans, et qui travaille depuis les années 60 à dissoudre en quelque sorte les frontières entre art et vie. Et c'est ce qu'on retrouve plus loin aussi, là quand même il faut le noter, il y a quatre cellules qui sont faites par Nathalie Dupasquier, qui était une figure de Memphis, qui a disparu, qui est passée sous les projecteurs puis qu'on a oublié, et qui est revenue au devant de la scène dans les années 2010 avec le revival des années 80. Et c'est là où, par contre, le titre ancien, futur ancien fugitif je trouve, fonctionne, dans la mesure où on a affaire à des artistes parfois d'un certain âge, qui sont passés sous le feu des projecteurs, ont été un peu oubliés, et dont les pratiques rentrent en écho avec de jeunes artistes, qui peut-être eux-mêmes seront d'anciens fugitifs, qui parleront à des futures générations.
On sera peut-être plus là pour en parler. Frédéric Bonnet, vous retenez qui, quoi ?
Oui, là, je trouve un peu optimiste, Sarah.
Mais c'est bien, on a besoin d'optimisme, là.
On a besoin d'optimisme. Moi, je retiens Jean-Luc Blanc, Forever.
Oui, ouais.
Les peintures les plus fortes, les plus habitées, les plus curieuses de cette exposition. J'aime toujours aussi beaucoup le travail de Renaud Gérez et ses formes étranges à la temporalité indéfinie et aux identités glissantes, qui est quand même quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs des artistes qui sont là. Puis si je dois en donner un troisième, j'ai bien aimé aussi les polaroïdes de Julien Carré. Pas seulement là, mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Et il y a une sorte de nostalgie sourde qui sort de ces photos et du film qui est présenté derrière, avec un temps ralenti. Et je trouve ça très beau comme travail.
Corinne Rondeau, on passe au sous-sol, donc, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, bah, y avait les deux.
Jean-Luc Blanc
était aussi. Julien Carène était bien. Je trouve que Nina Childress est très mal exposée.
Ouais.
C'est un scandale.
Ouais.
Absolu.
Alors que...
Absolu. Voilà. Et en bas, donc,
il devrait toujours avoir la place d'honneur.
Ouais. Quand on a des peintres, on aimerait les voir et pas les mettre à côté d'un artiste qui, sans doute, a des choses à montrer aussi. Mais là, c'est elle qui s'en prend un peu dans la tronche et c'est quand même très malheureux, quoi. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de peintres. Enfin, il y a Grossman, mais c'est détestable. Mais bon, ça, c'est un goût personnel et une subjectivité, hein, comme dirait notre ami Frédéric. Mais Linda Sanchez, j'aime beaucoup cette espèce de travail sur de la fabrication, mais qui est aussi quelque chose du chantier, mais avec le goût de la répétition, quasiment minimale et minimaliste de la répétition dans le chantier. Et puis, c'est surtout le film de Lily Reneau-Dewas, que j'ai trouvé absolument génial et qui est à l'encontre de la transmission qu'on nous saoule avec les générations. Parce que là, c'est vraiment le fond de la proposition, elle est intergénérationnelle, ça m'agace. J'ai juste envie de voir de l'art et pas qu'on me parle des gens qui soient vieux ou jeunes. Ce qui tient, c'est les œuvres. Et je trouve que Lily Reneau-Dewas qui va à la fond de Donald Judd, au milieu du désert, et qu'elle nous fait du vampire, qu'elle nous fait avec ses étudiants un bordel absolu, et que là, elle vient briser tous les codes. Et moi, j'ai pris un
plaisir.
Je l'ai vu dans l'intégralité. Hein.
Ça m'étonne pas de vous, Corinne.
Et je retournerai le voir.
Bon. Voilà.
Alors, j'ai pas le temps, mais j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film parce que vraiment, il déconstruit intégralement le rapport fétichiste à l'art.
Et ça fait du bien.
Bah
c'est
ouais.
Optimiste, ça aussi,
mais
vous voyez.
Bien sûr.
Futur ancien
moi,
fugitif.
Dans les souterrains, vous voyez.
C'est le titre de cette exposition, Une scène française. Jusqu'au 5 janvier 2020, et puisque j'en profite aussi pour annoncer deux nouvelles masterclass qui vont être enregistrées ce samedi 26 octobre à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie. À 10h30, c'est Aude Lavigne qui interrogera Valérie Belin. Et j'aurai le plaisir d'interroger Sabine Weiss à midi samedi à la MEP. Et on peut bien sûr... venir en s'inscrivant par mail à auditeurfc@radiofrance.com pour dire qu'on vient, l'entrée est libre sur réservation. C'est l'heure du coup de cœur de Frédéric Bonnet pour l'exposition de James Webb à la galerie Iman Fares.
Amis auditeurs, vous avez jusqu'à samedi, on s'y prend un peu tard, mais mieux vaut
samedi
tard
ou
que
dimanche.
Jamais.
Pour c'est aller... fermé le dimanche.
Ah oui, c'est fermé le dimanche.
Ah, c'est jusqu'au 26
samedi,
alors, pas le 27.
Oui, non, c'est pas
j'avais mal noté.
Oui, non, c'est moi qui...
Voilà. D'accord.
Bon, jusqu'à samedi, donc.
Bah, ça laisse des 3 jours.
Pour aller voir James Webb à la galerie Iman Fares. James Webb, artiste sud-africain, né en 1975, et une exposition assez minimale dans son contenu, très intrigante, qui ouvre beaucoup de questions à propos notamment d'une instabilité des choses et des états, d'un potentiel devenir, d'une expérience qui va au-delà de la perception première des éléments. Elle s'ouvre dès la vitrine, avant de rentrer dans l'exposition, sur une pièce que j'ai trouvée magnifique, qui s'intitule « Je ne vis pas seul dans ce monde, mais dans des milliers de monde », entre parenthèses, rêve de Franz Kafka. Qu'est-ce que c'est ? C'est une trentaine de beaux flacons en verre qui contiennent du liquide noir et sont en fait des citations littéraires issues des textes de rêve du journal de Kafka qui ont été retranscrites par l'artiste à l'encre sur du papier soluble et donc qui l'a laissé se dissoudre dans ces flacons et donc on ne sait plus face à quoi on est soumis et quelle est la nature de la nouvelle potion. Et pas loin de là, il y a aussi une autre œuvre très très intrigante, une statue en bois d'une Vierge à l'enfant, un peu abîmée, qui tourne le dos à la galerie, donc elle regarde le mur, et un son un peu curieux et assez désagréable environne tout ça. Ce sont des pulsations électromagnétiques qui crée une sorte de caisse de résonance et qui redonne une sorte de vie à la sculpture. Tout ça questionne aussi la psychanalyse à travers des dessins de Rorschach. Bon, je suis obligé d'aller un peu vite, hein, en fait.
Oui.
Dessine Arnaud.
Vous avez vu l'heure.
Allez voir à la galerie Iman Fares si vous le pouvez.
41 rue Mazarine jusqu'à samedi. Ne serait-ce pas le journal de la dispute dont le jingle a résonné, mais Lucille Como, vous avez changé. Ah ben non, c'est Jean-Christophe Brianchon qui reprend le journal de la dispute. Et ce soir, au sommaire du journal, une polémique, encore, qui bruisse. Car les polémiques bruissent, vous l'avez remarqué.
Les polémiques bruissent,
dans les couloirs du monde de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on visualise bien les couloirs du monde de l'art contemporain. Vous allez nous y entraîner, Jean-Christophe.
Oui, je voulais vous parler d'une polémique, ou en tout cas des questions que soulève l'existence du prix Marcel Duchamp, remis la semaine dernière par l'ADIAF, cette association pour la diffusion internationale de l'art français, à l'artiste contemporain Éric Baudelaire. Pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, le prix Marcel Duchamp a été fondé en l'an 2000 par l'ADIAF, une association composée de 400 collectionneurs d'art, avec pour objectif de mettre en lumière la scène française et de faire connaître le foisonnement artistique de ces artistes. Un prix remis en partenariat donc avec le Centre Pompidou et dont France Culture se fait le relais médiatique, qui est doté de 35 000 euros pour le lauréat, lequel est choisi chaque année parmi un groupe de 4 artistes présélectionnés par les membres de l'ADIAF et dont l'autre objectif est de constituer un pendant français aux distinctions internationales de renom, comme peuvent l'être par exemple le prix Turner organisé par la Tate Britain à Londres. On se demande donc comment une initiative comme celle-ci peut susciter des réserves, telles que l'on puisse parler cette année d'une polémique concernant la remise du prix Marcel Duchamp à Éric Baudelaire. Eh bien, tout est parti du site internet documentation.art, un média participatif qui vise, selon la présentation qu'il propose, à lutter contre l'hégémonie conservatrice qui gouverne le champ de l'art. Dans un papier mis en ligne le 14 octobre et repris depuis par Mediapart intitulé « ADIAF, plus de 20 ans de féodalisation de la scène française », les signataires anonymes de cette tribune parlent, je cite, « d'une initiative oligarchique et déplorent son influence sur l'écosystème de l'art français ». Très concrètement, les auteurs de l'article dénoncent le paternalisme des membres de l'ADIAF vis-à-vis des artistes, mais aussi le conservatisme des idées véhiculées par certains des membres de l'association, en plus de mettre en exergue la dynamique concurrentielle inhérente à l'existence même d'un prix tel que celui créé par l'association, allant jusqu'à parler de rapports de compétition, mais surtout de liens de subordination entre artistes et collectionneurs, faisant du créateur le sujet docile du pouvoir en place. En dehors de certains jugements et partis pris qui sont ceux des auteurs du papier et qui pêchent parfois par un manque de rigueur factuelle, il reste que cette tribune soulève des questions importantes alors que l'art contemporain subit depuis quelques années déjà la place grandissante que prennent les considérations financières dans son évolution, impliquant de nous poser la question de savoir si nous ne serions pas en train de vivre une restructuration totale du champ culturel ainsi qu'il fut pensé entre autres par le sociologue Pierre Bourdieu. Si tel que nous le disent les auteurs de ce papier, nous sommes en train d'assister à une dynamique de féodalisation du champ culturel, alors nous devons nous poser la question et nous demander si ceux qui constituent le gros de ces forces ne seraient plus les artistes et intellectuels d'hier, mais bien plutôt les collectionneurs et galeristes d'aujourd'hui, faisant de facto fusionner le champ culturel avec celui de l'économie. Pire, nous devrions même nous demander, et c'est la question que je vous pose ce soir, si à force d'une emprise croissante sur le champ culturel, les collectionneurs et institutions ne coloniseraient pas aussi, et surtout, l'imaginaire de nos artistes, jusqu'à faire de leurs œuvres le reflet des désirs de ceux qui les financent.
Bienvenue dans le monde de l'art pompier. Est-ce que, alors, il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, cet article anonyme, c'est quand même un peu compliqué. Moi, je connaissais pas le site documentation.art, mais ça balance dans tous les sens et c'est pas signé. Enfin, c'est signé par les anonymes.
C'est pas signé donc, et ça balance accessoirement sans citer les personnes.
Oui, oui, bien sûr.
Les citations sont parfois extraites.
Ça donc, c'est un article pas, voilà. Compliqué. Même, et le pire étant qu'évidemment, là-dedans, il y a des choses qu'on imagine tout à fait vraies et d'autres dont on ne sait pas si elles le sont. Enfin bon, mais il y a quand même un discrédit qui se jette. Vous voulez dire quelque chose, Corinne Rondeau?
Non, je suis absolument d'accord avec vous. Je trouve que ce texte est absolument ignoble.
Alors, on n'est pas du tout d'accord.
On l'a dit, je veux dire, Jean-Christophe vient de le dire, factuellement, ça ne va pas. C'est des qu'en dira-t-on ? On accuse un certain nombre de noms, l'ensemble
des textes
de documentation.
Écrits par documentation.
Documentation fait un travail anonyme, pseudo, des gens qui sont dans le milieu.
Parlons-en de l'anonymat et de documentation. Documentation, c'est quand même une revue qui fait un travail que très peu de revues font, c'est-à-dire qui vient pointer des dysfonctionnements et des dérives du système, du monde de l'art contemporain, et pas des artistes. Ouais. Mais c'est Corinne, vous levez les bras au ciel.
Ça fait la leçon. Ils font la leçon. Des gens qui font la leçon.
Bon, moi, ça me paraît important. Et sur la question de l'anonymat, ils se sont prononcés. On leur a fait ce reproche-là. Ils ont écrit un texte qui est très clair sur le sujet, comme quoi, effectivement, prendre la parole dans un monde avec des rapports de force très inégaux. Navré, peut-être que vous pouvez prendre la parole publiquement sans qu'il y ait des retombées sur votre carrière. En revanche, pour la plupart des personnes qui évoluent dans le milieu de l'art contemporain, il y a une précarité, il y a une interdépendance telle que prendre la parole ouvertement, c'est directement une mise au banc qui peut être insidieuse. Donc oui, en fait, c'est une stratégie dédominée. Mais absolument, il faut que je fasse ça. D'ailleurs, on prend des risques à la dispute, on le sait.
Oui,
absolument. Mais c'est une stratégie de dominer à l'égard de dominants.
Vous ouvrez des portes ouvertes, ça.
Non, il me semble. Mais Corinne, pas du tout. Il ne s'agit pas de corbeau.
Ça fait 20 ans que ça, on le sait. Ça fait 20 ans qu'on nous soulève avec ça. Mais je veux dire, l'art, depuis la Renaissance, c'est toujours lié à des rapports de stratégie et de pouvoir d'économie. Le problème aujourd'hui, c'est que la question qui. La valeur de l'art n'est pas du tout liée aux mêmes choses. Si c'était le côté religieux avant qu'il gouvernait l'art et les relations économiques avec la production artistique, aujourd'hui, depuis un siècle et demi, c'est de l'économie.
Mais faites un texte sur le sujet, Corinne, pour répondre à documentation.
Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, non, mais moi, ça me fait de la peine vraiment qu'on fasse de la pub, de faire de la pub à des gens qui sont à l'intérieur d'un réseau, qui sont à l'intérieur du réseau, qui sont sans doute payés à l'intérieur de ce réseau-là et qui dénoncent. C'est incroyable. Au lieu de dénoncer, au lieu de faire la leçon, parce que quand même à la fin on dit grosso modo aux artistes, vous savez dans quel monde vous vivez. Évidemment que les artistes.
Mais c'est pas la leçon qui est faite aux
artistes.
Bien
sûr que c'est. À la fin, c'est dans ce monde néo-fasciste, il faut absolument que vous preniez des décisions.
Il peut y avoir des maladresses. Je dis pas le contraire.
Vous pouvez pas tout défendre parce que vous êtes tout à fait parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Je pense que à un moment donné, il faut arrêter de faire la leçon. Et ce à quoi nous pousse, c'est que de découvrir que Éric Baudelaire tient le prix. C'est formidable, c'était inattendu. Donc,
mais c'est pas une remise en question des artistes.
La deuxième chose, c'est de se dire que, je sais plus. Mais
la troisième, c'est
à un moment donné, il faut trouver des alternatives. Je crois que la DIAF, c'est un terrain miné. Je pense que tout ce qui est dit est en partie
vrai. Corinne Rondeau.
Mais par exemple, l'alternative, c'est un mec comme Stéphane Correa, avec Galeriste, qui crée un rapport, pardon de le citer, mais c'était la FIAC.
De la dispute.
C'est la FIAC, mais à côté de la FIAC, il y a un dispositif où l'amateur a à nouveau sa place et dans une économie, puisqu'en fait, au lieu de dénoncer, on crée une alternative, on remet l'économie à l'endroit où il n'y a pas que des galeristes, où il n'y a pas
que pas
qui se tirent les pattes parce qu'ils
ont possible de dénoncer.
Bon, ça y est, je me suis énervé, je vous laisse parler.
Allez, Frédéric Bonnet.
Oui, non, moi aussi, je trouve le procédé de l'anonymat assez détestable parce que justement, on se veut antifasciste, mais on emploie les outils des fascistes et des collabos.
Je viens de vous expliquer, ils se sont prononcés sur le sujet. Alors, lisez. Lisez les arguments avant de vous prononcer. Écrivez-vous au fascisme.
Ça fait 15 ans que je suis critique d'art. J'ai toujours assumé l'intégralité de mes propos, qu'ils soient oraux à la radio, qui soit publié dans un journal, y compris au risque de me mettre en difficulté vis-à-vis de certains intervenants du milieu de l'art que j'ai pu critiquer parfois très durement. Ça fait partie du boulot, point barre. On assume ses propos.
Mais est-ce que ça les empêche de poser des questions parfois intéressantes ? Je ne suis pas sûr.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils posent de vraies questions. Oui.
Mais c'est pas la question. Ils accusent.
C'est pas le sujet.
Ils accusent, mais ça peut lancer un débat, entre autres, sur les alternatives existantes à des organismes comme la DIA. Vous parlez de Stéphane Correa. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez autour de cette table, je ne sais pas. Donc voilà, ça lance un débat sur une base qui n'est peut-être pas saine, mais éventuellement, ça peut faire réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas seulement les mettre au banc parce que leur procédé ne serait pas tout à fait correct.
Il faut peut-être pointer aussi ce qui est désigné dans l'article, à savoir que ce prix de la DIA, le prix Marcel Duchamp, qui est présenté comme un prix quasiment national, en fait, ce sont des intérêts particuliers qui gouvernent ce prix-là, et ça, c'est quand même intéressant de le pointer.
Mais tout le monde le sait depuis que ça existe.
Mais tout le monde le sait ou pas, Corinne ?
Tout le monde, mais Corinne et nous peut-être, mais peut-être pas tout le monde.
Mais ça n'intéresse. Franchement, ça intéresse qui, par contre ?
Mais je pense que
les documentations qu'on a,
ça devrait. Je suis désolée de vous le dire.
Ça ne devrait pas.
Mais ils sont déjà intéressés par l'art contemporain.
Frédéric Bonnet.
Non, je crois que la question que pose au fond ce papier, on va dire, c'est le rapport à la fois des artistes et surtout des institutions avec l'argent extérieur. Il y a un désengagement massif et de plus en plus prononcé de l'État, et qui va encore aller se réduire, et des collectivités territoriales pour le financement de la création. Il faut donc trouver de l'argent. Où est-ce qu'on va chercher de l'argent ? Chez des particuliers ou chez des entrepreneurs qui en ont et qui donc veulent se faire de la publicité ou appartenir à certains groupes d'influence, on va dire. À partir de ce moment-là, la question c'est, est-ce que vous acceptez que votre argent vienne de n'importe qui, ou est-ce que il y a des régulations qui doivent être mises en place? On a l'exemple magistral du président des Amis du Palais de Tokyo qui a été débarqué en 24 heures il y a trois semaines de ça, où on s'est rendu compte, et ça, moi j'ai trouvé ça absolument incroyable, que le type traitait les Asiatiques de macaques sur Facebook, appelait sur Twitter. Il y a quand même un tweet sur son compte Twitter en disant que, de toute façon, la majorité de l'art produit en France, c'est de la merde, et que si on supprimait le FNAC et les FRAC, on pourrait mettre cet argent ailleurs. Et le gars se retrouve président des Amis du Palais de Tokyo. Il faudrait quand même juste se renseigner un petit peu avant.
C'est une association qui est dépendante,
et qui est là pour financer des projets, pour faire venir de l'argent et des fonds pour financer certains projets du palais. Il faut quand même, la question qui se pose, c'est celle-là. Est-ce que il faut trouver de l'argent, on n'a plus le choix. Est-ce que on est prêt à accepter l'argent d'où qu'il vienne?
Oui, ou est-ce qu'on est prêt à demander quand même,
c'est
une question,
ou est-ce qu'on a des documentations précisément? Est-ce qu'on en...
Oui, bah enfin à la
par rapport à la Biennale de Lyon, notamment par rapport à la Biennale de Lyon totale.
Comme ça c'est audible et c'est respectueux. Mais pas comme c'est posé dans la documentation. Pardon de vous le dire. Là, la forme, c'est
pas possible. Être d'accord.
Et il pose aussi la question du conservatisme, qui est celui parfois des galeristes et des institutions dans le milieu de l'art, qui est une question qui, je pense, n'est pas tant soulevée que ça, puisque, en tout cas, d'un point de vue populaire, on reproche souvent aux institutions d'être au contraire peut-être parfois trop dans la...
élitiste, trop contemporaine.
Dans l'élitisme et trop essayer de montrer des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Ici, et dénoncer une certaine forme de conservatisme, y compris par le biais de l'éviction du président des Amis du Palais de Tokyo. Bon, là, c'est au-delà du conservatisme, c'était de la xénophobie. Mais bon, toujours est-il que c'est une question que pose Documentation et qui mérite peut-être d'être posée pour partie aussi.
Grand silence. cette nouvelle.
Mais c'était pareil, l'ouverture du MoCo, ce que vous dites, hein, Frédéric, pour ajouter encore des éléments entre privé et public.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est le vrai problème, c'est effectivement qui finance quoi à l'intérieur d'un espace public. Le MoCo, c'est public, c'est pas privé. Et l'argent était privé.
Bon, on n'a pas fini de débattre sur ces questions, et puis ça fait quand même des années qu'on en parle, et que ça a des incidences sur les carrières des uns et des autres. Mais on le dit dans des micros, dans une radio publique qui nous permet de le faire. Et ça, c'est quand même tant mieux. Merci mon cher Jean-Christophe d'avoir ouvert votre journal ce soir. On fait même des jeux, parce que nous on fait des cadeaux, vous voyez, avec l'argent public. Le chef de la dispute avec David Dana qui nous rejoint pour nous rappeler d'abord la question et puis nous donner la réponse du jeu d'hier, David.
Quel est le coût moyen d'une journée de détention en France? Et la réponse est 105 euros.
Ce soir, des invitations sont à gagner pour une trilogie qui nous intéresse, Corinne Rondeau. La trilogie restaurée de La Nuit des Morts Vivants, Zombies et Le Jour des Morts Vivants de Georges Romero, qui est ressorti en salle donc aujourd'hui dans cette version restaurée. On y sera tous les soirs, hein, je pense. La réponse, oui. D'abord la question peut-être, David.
De quel livre Georges Romero s'est-il inspiré pour l'écriture du scénario de La Nuit des Morts Vivants ?
Et votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Luc Vauvillier, Lucille Como, Boris Pinault, Jean-Christophe Brianchon et David Dana, prise de son Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, une dispute littérature. Vous serez là, Jean-Christophe Brianchon, avec Grégoire Leménager et François Angelier. Nous parlerons des nouveaux livres de Joyce Carol Oates, de Ceri Ustvedt, de Santiago Amigorena et d'Emmanuel Lambert.